Vous écoutez
RMC.
C'est un sport, à mon avis, qui est un sport d'adresse, qui est un sport d'habileté, de souplesse, d'intuition. C'est pas un sport de contact, le football.
Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot.
Si on veut pas de contact, on va jouer aux osselets, on va jouer à la pétanque, mais on joue pas au football.
C'est 11 mecs contre 11 mecs, et ça devient aussi une question de centimètres, tu vois.
C'est la beauté de ce sport, du football en particulier.
Nicolas Jamin.
Bonsoir à toutes et à tous. Et oui, l'after est là comme tous les soirs jusqu'à minuit à la radio sur RMC, à la télé sur RMC Sport News. L'after, la seule émission de radio en France en direct. 7 jours sur 7, casting du soir. Bonsoir Jonathan Macardy.
Salut les gars.
Bonsoir Damien Perrinel.
Et bonsoir tout le monde.
Émission, on a un gros programme ce soir. On a 1h20 d'after très précisément.
Il y a le feu aujourd'hui.
Hein. Bah,
il y a le feu partout. On va quand même revenir sur la victoire lilloise, la troisième consécutive sur le terrain d'Angers, 2-0. On va parler d'Osimhen, on va parler de Renato Sanchez, également de la troisième place ex aequo et la quatrième de Lille. Lille est-il le favori désormais, compte tenu du contexte rennais, pour arracher la troisième place de qualification pour la Ligue des Champions, voire plus? Appelez-nous supporters lillois, bien sûr. Grosse page rennaise, évidemment, avec eh bien, le coup de théâtre aujourd'hui, la surprise.
Incroyable.
Quand on suit le club à distance, en tout cas, l'éviction d'un homme fort du Stade Rennais. Ce club est fort. En plein vol, paf, on coupe une aile.
On
Olivier Létang.
On ne sait pas encore.
On verra dans un instant, bien sûr. On sera avec Pierre-Yves Leroux pour toutes les infos sur la mise à l'écart d'Olivier Létang et l'ambiance surtout au sein du groupe Rennais. Est-ce que ça va atteindre les Rennais? Les propos également de Jean-Michel Aulas, on va les décrypter sur Rudy Garcia. Oui, c'est l'amour fou entre Aulas et Garcia. Comme entre Jonathan et Garcia, appelez-nous supporters lyonnais. Est-ce que vous adorez autant Rudy Garcia?
Entre moi
que
et
votre
qui
président adore Rudy Garcia.
L'amour fou entre moi et qui?
L'Allemagne également, des nouvelles du Borussia Dortmund avec Paulo Breitner et avec une première casserole, tiens, dans la jeune carrière foudroyante de Haaland. Hollande, faut-il dire, apparemment.
On va dire Haaland, on va pas. Hein,
allez, on dit Haaland.
C'est du cul pour chez droit, c'est Haaland, c'est bon.
Appelez-nous, 32-16, vous connaissez le principe. Le hashtag RMC Live, l'application RMC Sport, Direct Studio, vos messages, on les lira à l'antenne. Que vous habitiez, je sais pas moi, en Nouvelle-Zélande, en Belgique, en Allemagne, en France évidemment, en Guadeloupe également, territoire de l'Outre-mer, appelez-nous. Et écrivez-nous, on lira vos messages. Dans un instant, les trois points, mais je vous rappelle également que l'After est l'émission la plus généreuse de RMC. Et l'After vous offre.
Il y a du cadeau là.
Deux places, et ça c'est du cadeau. Deux places pour le match 8e de finale aller de Ligue des Champions au Signal Iduna Park. Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, le 18 février prochain. Pour ça, c'est simple, hein, appelez-nous, supporters parisiens ou autres. Hein,
mon petit doigt me dit qu'il y a quelqu'un qui va y être.
Non.
Tu vas pas toi?
Ah non, non,
c'est au retour.
C'est au retour.
Envoyez-nous dès maintenant foot au 732-16, foot au 732-16 et en fin d'émission, hein, afin de nous donner votre tribune.
Mais
si elle est bonne, eh bien vous gagnerez deux places pour Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain. Allez messieurs, l'essentiel c'est les trois points.
L'important c'est l'essentiel.
Le plus important c'est les trois points.
Souvent l'essentiel c'est le plus important.
Jonathan.
Premier point, je pense que Stéphane Moulin s'est totalement planté dans sa lecture tactique du match. Je pense que notamment en première mi-temps avec cette défense à 5 surréaliste, il s'est tiré une balle dans le pied et c'est étonnant de la part d'un de nos très bons entraîneurs qui officie en Ligue 1. Le deuxième point, Lille, troisième, mais Lille n'est pas impressionnant. Sur ce match-là, je pense que Lille a surtout profité de la faiblesse angevine avec des individualités qui ont émergé. On en parlera tout à l'heure, je pense à Renato Sanchez. Mais pour l'instant, Lille a encore du pain sur la planche. Et le troisième point, bon bah oui, Rennes effectivement, c'est très surprenant. Ou alors qu'on pense que tout va bien, on pense que le club est vraiment en course pour attraper un strapontin magique pour la Ligue des Champions. Il y a ce coup de théâtre aujourd'hui qui n'est pas forcément un coup de théâtre lorsque l'on connaît le contexte du club, mais c'est quand même très étonnant ce timing de l'annonce. Donc voilà, surpris.
Damien.
Pour revenir au match de ce soir, c'est surtout le niveau technique dans sa globalité qui pour moi a été catastrophique, qui n'a permis aucun enchaînement d'action, aussi bien côté angevin que, alors c'était un petit peu mieux côté lillois, mais dans l'ensemble, c'était assez faible. Ensuite, j'ai envie de vous dire que la tactique va nous tuer dans ce championnat. C'est-à-dire qu'à force de jouer petit bras comme ça, comme l'a fait Angers, ça peut se comprendre avec leur série actuelle de défaites et de matchs nuls. Mais au bout d'un moment, tu joues chez toi et il faut que tu sois un peu plus ambitieux dans ton jeu. Et mon dernier point concerne Lille. En effet, Lille, troisième ce soir. C'est incroyable. En fait, dès qu'on fait deux ou trois enchaînements de bons résultats, on se retrouve tout de suite sur le podium. C'était le cas de Rennes. Donc, à qui le tour pour le prochain coup?
On verra. Voilà les trois points, le décor est planté. On est ensemble jusqu'à minuit, bien sûr. Je vous rappelle donc Lille 1.
Tu les fais pas, toi?
Pas ce soir, non, mais tu vas voir. J'ai plein de trucs à te raconter ce soir. Du coup, Lille, effectivement, alors, est quatrième de Ligue 1, mais revient à hauteur de Rennes, avec un match en plus, bien sûr. 40 points pour les Lillois, troisième victoire consécutive. Ça va beaucoup mieux pour les Lillois depuis leur réunion solidarité. Ce groupe s'est ressoudé autour de son coach, notamment. Rennes, 40 points, troisième, bien sûr. Quant à Angers, vous vous rappelez, il y a quoi? Il y a trois mois, Angers était deuxième de Ligue 1, puis troisième de Ligue 1. Désormais 13e de Ligue 1avec 30 points. J'accueille Paul, supporter du LOSC au 32-16. Salut Paul et bienvenue dans l'After.
Salut Nico, salut John, salut Damien.
Salut Paul.
En tout cas, ça fait plaisir de vous avoir. Ça fait quelques semaines que je ne vous ai pas eu et vous manquez.
Ah, c'est sympa ça.
En plus, c'était la bonne occasion.
Je crois qu'il a dit ça la semaine dernière à l'équipe de l'After de la semaine également.
Ah bon?
Paul, non?
Ah bon?
Bah, j'ai eu la semaine dernière avec Daniel et.
Ah ouais, mais c'est moins bien. Ouais.
C'est pas toi qui a dit. C'est pas toi qui a dit. Bon, c'est bien.
Attends, entends ce qu'il a dit.
Non.
Redis ce que t'as dit, Paul.
Alors j'ai dit j'ai eu Daniel et l'équipe de la semaine, mais c'est quand même moins bien que l'équipe du week-end.
Ah voilà. Ouais, d'accord. Voilà. Okay, bah, j'espère que t'es honnête. Hein. Mais si on s'en fout, nous sommes une famille.
On lui a filé 5 balles pour dire qu'il dit ça.
On n'est pas en concurrence, Jonathan.
C'est vrai, mais je dis ça pour rigoler. C'est pour rire.
Vas-y, Paul.
Dis-nous, Paul.
Exprime-toi.
Non, écoutez, j'ai eu l'impression ce soir de voir le match du LOSC. Peut-être que je le vois depuis quand même pas mal de journées. C'est-à-dire que leur gros pressing au début, but, et ensuite, et c'est ce que je disais au standard, genre contamination de l'esprit Ligue 1 par Lille. Enfin, contamination de l'esprit Ligue 1 à Lille. C'est-à-dire que genre, tu marques, donc tu fermes.
C'est ça.
Ça, en même temps, tu sais, Paul, avec la qualité de tes joueurs offensifs basés sur la vitesse et l'explosivité d'Osimhen, c'est peut-être pas plus mal de jouer sur un bloc bas une fois que tu as ouvert le score.
Non, je suis pas d'accord parce que c'est ce que vous disiez, genre, t'as l'effectif pour jouer, pour provoquer, pour avoir un jeu très technique. Et en fait, la fin dernière, genre, contre Rennes, c'était exactement la même chose. Tu joues, tu presses, tu accules sur la défense, tu marques et ensuite tu fermes.
Bah,
c'est pas le jeu lillois.
Je suis d'accord avec toi, mais il y a quand même une chose qu'il faut dire, c'est que quand tu regardes le déroulé du match, ok, le match n'était pas enthousiasmant, je pense qu'on va tous être d'accord là-dessus. C'est que quand même le LOSC, à partir du moment où ils ont décidé de se mettre bloc bas, si les attaquants sont un petit peu plus réalistes, un petit peu moins égoïstes, à chaque fois tu les crèves en contre. Tu les crèves. T'as des situations, j'ai noté au moins 3 situations où t'es à 5-2. Tu l'es crevé parce que Angers était structurellement totalement déséquilibré pendant tout le match-là. Alors après, je suis d'accord, sur ce match-là, ça peut se comprendre, mais ce qui est un peu plus gênant, et là je te rejoins Paul, c'est qu'on assiste souvent à cette situation, même si l'équipe adverse ne se prête pas forcément à ce genre de scénario.
Et après Paul, regarde le but d'Osimhen. C'est Osimhen qui part à la limite du hors-jeu presque de son camp et qui prend le dos de Pavlovic. Mais au-delà de ça, là, je suis d'accord avec toi, c'est pas parce que tu as marqué un but que tu dois t'arrêter de jouer. Pourquoi tu vas pas essayer d'être toujours aussi ambitieux, d'aller presser et d'en marquer un deuxième et un troisième? En fait, c'est ça, c'est, voilà, on a marqué notre but, à tout de suite, on va protéger maintenant, on va jouer bas. Alors, c'est une tactique du Galtier, je ne sais pas. Mais je pense qu'il y avait largement mieux à faire quand t'as des joueurs comme t'as Renato.
T'as raison.
T'as tout ça au milieu.
Il y a deux choses dans ce que tu dis.
C'est chiant.
Je suis d'accord avec toi. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je comprends ce que tu dis et je te rejoins à 100% là-dessus. Sauf que je pense que cette équipe de Lille, et c'est symptomatique parce qu'on parle quand même d'une équipe qui est 3ème de Ligue 1, elle n'a pas assez de certitude dans le jeu et d'assez de confiance pour pouvoir faire, voilà, pour continuer à pilonner au pressing et à essayer de mettre le deuxième but. Donc je pense qu'en fait c'est totalement symptomatique de ce qu'est la Ligue 1.
Exactement.
C'est qu'une équipe qui est troisième de notre championnat, ouais, qui est en passe de se qualifier, allez, qui est dans les starting blocks pour avoir une place en Ligue des Champions, et ben elle mène 1-0 contre une équipe contre Angers qui est en plein doute, et ben elle flippe quand même de se faire égaliser.
Mais d'autant plus qu'aujourd'hui t'as plus de Coupe d'Europe, t'as plus de Coupe de France, t'as plus rien, t'as que un match par semaine à jouer. Alors là, c'est un enchaînement, une semaine à 3 matchs, ok. Mais je pense que tu peux mettre quand même autre chose, d'autres ingrédients dans ce match-là, l'emballer autrement en tout cas. Et alors en revanche, leur réalisme parfait aux Osimhen, voilà, qui sont
sur les 4 marques. Et s'ils sont réalistes, ils peuvent gagner au moins 4-0.
Ils peuvent en mettre 3-4 à la fin.
Des dégâts, parce que aux Osimhen. Vas-y, Paul, et après j'enchaînerai.
Non, mais en fait, pour le coup, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est que, en fait, dès que tu as marqué le but, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une réaction naturelle très Ligue 1. Et c'est pour ça que je parle de contamination de la Ligue 1. C'est qu'il y a une tendance naturelle à se replier sur les 30 mètres défensifs.
Mais c'est ça. Mais Paul, mais pourquoi? Demande-toi pourquoi, Paul.
Mais parce que tu as une contamination naturelle de la Ligue 1.
Non, Paul, t'es dur là.
Assez souvent, vous le disiez assez souvent dans votre émission, c'est que dès que tu marques, tu te replies. Alors qu'en fait, Lille, c'est un jeu qui portait très souvent vers l'offensive, d'accord, très souvent vers la d'accord transition offensive, et on l'a vu ce soir.
Mais Paul, attends, Paul, je te coupe, mais quand tu me dis c'est la contamination de l'esprit Ligue 1, il faut aller plus loin. Je pense qu'en fait, cette contamination de l'esprit Ligue 1 que tu qualifies de la sorte, c'est simplement que 99%, alors on va dire toutes les équipes de Ligue 1 sauf le Paris Saint-Germain, n'ont pas assez de certitude dans le jeu pour être capable de ne pas vouloir défendre à 1-0.
Je suis pas d'accord parce que tu as vu le match Lille-PSG il y a pas très longtemps. Lille n'a cessé de presser très haut.
Parce que c'est le syndrome du petit qui joue contre qui a rien à perdre.
Pardon ?
C'est le syndrome du match où t'as une équipe qui a rien à perdre.
Ah mais Jonathan, tu penses pas que c'est quand même culturel cette manière de voir les choses, de voir le foot ? Il y a que chez nous en France peut-être, où ça se passe comme ça. Va voir un match en Bundesliga, une équipe qui gagne 1-0, elle va s'empresser de vouloir marquer le deuxième et le troisième et d'enchaîner. Alors que nous, mais en Espagne, c'est pareil.
Damien, Paul, les gars, les deux ne sont pas en contradiction. Je pense que les deux vont ensemble.
Regardez la Coupe du Roi, il y avait
bien sûr contre le Real hier. Je suis d'accord avec toi, Paul, bien sûr.
Voilà, les gars. Ce sont des équipes qui ont joué, qui n'ont pas perdu leurs moyens. Bon. Parce qu'ils jouaient contre le grand Barça, qui jouaient contre le grand Real.
Bon, Paul.
En fait, ils n'ont pas perdu leurs moyens.
Oui, Paul, bon, vous avez raison sur le fond. Hein, c'est plutôt, voilà, digne de la philosophie, afterienne. On veut du jeu, on veut de l'audace. Mais bon, Lille enchaîne une troisième victoire consécutive. Lille était en grande difficulté fin 2019, début 2020. Lille s'est totalement relancé. Je pense que Galtier ce soir, il est satisfait.
Oui, bien sûr.
Il y a forcément un truc à redire, mais Lille est revenu dans la course qui était inespérée il y a encore 3 semaines à la qualification pour la Ligue des Champions avec 40 points. On verra maintenant. Lille était malade, Lille est en train de se guérir. Ils vont pouvoir peut-être avancer différemment.
Ouais, mais Nico, ça, c'est la vision à court terme qu'on va avoir sur le résultat de l'instant présent.
Il faut recimenter et après tu verras. Après, ouais, tu mettras une première fleur là sur le balcon.
En fait, tu poses quoi comme
base ? Tu vas mettre un parquet brillant et tu verras après.
Tu poses quoi comme base en fait sur ton jeu ?
Attends,
t'avais plus de base.
Alors Damien.
Bah si, l'année dernière, t'en avais une base.
Non mais qu'on soit bien clair. Oui, mais qu'on soit bien clair. Lille, c'est une des équipes à qui je pardonne le plus ça. Parce que de par leur projet, de par la structure de leur projet, Galtier, en fait, il marche sur des ans en permanence, il est obligé de reconstruire en permanence. Encore, c'est un miracle que ce mercato-là, il n'ait pas perdu un joueur clé. Et en fait, quand t'es dans un projet qui est aussi instable, que tu sais que tes meilleurs joueurs vont partir de saison en saison, construire sur la durée, c'est très difficile. Donc, il est obligé de s'ajuster. Et à la rigueur, cette remarque, si tu me l'as fait sur d'autres clubs de Ligue 1, genre Lyon, Marseille, Rennes, etc., je l'entends. Mais sur Lille, j'aurais tendance à être un petit peu plus indulgent.
Ouais, mais j'ai presque envie de te dire que Galtier n'est pas le responsable de cette situation-là. C'est le club en lui-même. C'est,
il fait au mieux.
C'est l'ambition sportive de ce club qui est à remettre en question.
Les gars, je vous posais la question en préambule là. Est-ce que vous faites de Lille, au vu du contexte rennais qu'on va évoquer dans un instant, favori pour la troisième place ? Beaucoup disent que Lille, finalement, a le 2e, 3e meilleur effectif de Ligue 1, 4e aujourd'hui. Quoi.
Bah, c'est difficile parce qu'on va voir comment Rennes est impacté. C'est trop tôt pour savoir. Là.
Il y a aussi Lyon qui est à 7 points, certes. Mais bon,
bah Lyon, ils ont Rudy Garcia, donc c'est déjà une balle dans le pied. Non, je pense que oui, ça va se jouer entre Marseille, Rennes et Lille. Et Montpellier. Je pense que je n'élimine pas Montpellier.
Voilà. Merci, Paul.
Merci à vous, les mecs. Bonne soirée.
Écoutez l'after en semaine et le week-end, bien sûr. Tiens, j'accueille Valentin, supporter du SCO d'Angers au 32-16. Salut, Valentin.
Yeah, comment ça va ?
Salut, Valentin. Les gars. Bon, toi, apparemment, tu es dégoûté et énervé.
Ce soir, je suis un peu dégoûté parce que, j'ai pas envie de mettre en cause le contexte actuel qui fait que les joueurs étaient pas mobilisés. J'ai pas envie d'en parler, ça m'intéresse pas pour l'instant. J'attends le jugement et j'attends de voir ce que ça avance. Pour l'instant, j'ai pas envie d'en parler, j'ai pas envie de mettre ça sur le fait que les joueurs n'avaient pas été bons par rapport à ça ce soir. Non, mais je suis déçu parce que, ce soir, on n'a rien proposé, vraiment. Après, par contre, il y a rien à dire. On est tombé sur une équipe de Lille très forte, physiquement très forte. Du jeu en une touche de balle, c'était vraiment très 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 bon. Osimhen a fait de nombreux appels, il nous a fait mal. Le but qu'il met est magnifique, hein, son appel est magnifique. Même si après je sais pas hein, s'il y a faute ou pas, enfin c'est peut-être mon côté aussi j'entends un danger.
Il y a un petit penalty quand même en première mi-temps pour vous. Si.
Oui, il y a peut-être penalty. Moi je pense surtout que c'est de la faute au départ de l'action sur le but d'Osimhen, c'est une faute sur Manso. Pour moi, il y a faute. Après, c'est peut-être aussi mon côté supporter qui fait que je suis pas objectif.
Je suis moins sûr ça.
Donc, voilà. Mais après, ce soir, la première frappe cadrée, elle arrive à la 87e ce soir. Donc,
tu sais, Valentin, autant on a été dans l'after de week-end hyper élogieux vis-à-vis du SCO et du travail de Stéphane Moulin. On va pas tout jeter, évidemment.
Non, mais non.
C'est une équipe qui progressait année après année, saison après saison. Après, voilà, c'était un peu l'archétype du bloc bas, bien compact,
forcément tout le temps,
solide, cimenté. Mais là, le projet évoluait. Moulin nous l'avait dit, saison après saison, je veux commencer, voilà,
aller vers
une nouvelle philosophie, à commencer à se libérer, à proposer du jeu, à garder le ballon à terre.
Et c'est ce qu'il faisait même dernièrement.
Ouais, sauf que là, Angers est à l'arrêt. Jeu, hein. Plus aucune victoire en Ligue 1 depuis le 21 décembre dernier. 5 matchs, 3 défaites, 2 nuls.
C'est une cata. La dernière victoire, c'est à Nantes.
Voilà. T'as la blessure de ton petit feu follet algérien là.
On prend 2 points, mais 2 buts.
T'as la blessure de ton petit feu follet algérien, mais là, rappelle-moi son nom.
J'ai plus Fahad Melali qui est blessé.
Ouais.
J'ai blessé
c'est Melali, ouais. Ça c'est déjà un gros pépin parce que c'était clairement un des joueurs, même si ouais c'est un jeune, etc.
Mais, attends, hein.
Mais à chaque fois qu'il jouait, il marquait. Il faut quand même le dire.
Mais le problème c'est que sa blessure elle est bête, il se blesse à Marseille, mais c'est lui qui fait tomber Mavi et Mavi tombe sur son
ouais. Donc ça, voilà, Valentin, ça y a pas de problème là-dessus. Mais pour revenir l'analyse du match d'Angers, de la situation d'Angers, voilà, sur l'instant, moi je suis pas inquiet pour Angers. Je pense juste c'est un très sale enchaînement de matchs. T'as eu le match en coupe, t'as une tuile de cata qui s'abat sur toi. Mais je pense que cette équipe a d'une par la qualité dans son effectif et la qualité sur son banc pour se ressaisir très vite. Cette équipe, de toute manière, t'es obligé d'avoir une période comme ça dans la saison et là c'est maintenant pour manger ton pain.
J'espère qu'on a la capacité.
Jonathan,
t'en es quand même à 11 matchs sans victoire. Tu vois, je veux dire, la période, elle est quand même pas. C'est pas une période de 3-4 matchs où tu galères un peu. Après, là où j'étais. Elle est déçue sur le coaching de Stéphane Moulin, c'est qu'il fait rentrer 2 joueurs à la 60e, mais il reste à 5 derrière. Encore une fois, alors qu'il était déjà mené 1-0. Ensuite, il attend la 72e pour passer à 4 derrière. Et en plus de ça, choix du changement. Je sais pas si c'était très judicieux contre des fusées comme Osimhen. Tu laisses Pavlovic sur le terrain et tu sors Isma Traoré, qui pouvait éventuellement rivaliser en vitesse avec Osimhen. Et on a vu tout de suite derrière, quoi, mais les boulevards. Mais même tactiquement, t'avais des espaces entre les lignes.
En deuxième mi-temps, à chaque fois qu'ils récupéraient le ballon, ils étaient à 5 Lillois contre 2 Angevins sur les phases de transition.
C'est ça, cohérence tactique. C'est ça
très mal organisé,
en fait, si tu veux. Toi, c'est que ça, c'est la déliquescence qu'il y a eu au fur et à mesure du match, tactiquement en deuxième période.
Mais c'est à l'image de leur période, hein. En ce moment, c'est une équipe Angers qui était réputée être quand même assez difficile à manœuvrer, assez solide. Et puis, t'as quand même un enchaînement de matchs où là, c'est un peu porte ouverte derrière, quoi.
Merci, Valentin.
Merci, messieurs. Bonne soirée.
Excellent, Sarah. Tu viens quand tu veux dans l'after. Tiens, effectivement, précision. Il avait dit, Saïd Chaban, qui serait présent aujourd'hui au stade. Il était bien là, lui qui est mis en examen depuis mercredi pour agression sexuelle aggravée. Alors, il a pris ce qu'il a dit à nos confrères de Canet. Il a pris la parole ce matin. Il a été entendu par les joueurs. Voilà, il s'est rapproché d'eux. Pour expliquer sa situation dans ce climat extrêmement lourd qui pèse autour du club et bien sûr surtout du président du SCO d'Angers.
Après, je suis pas sûr que ça pèse sur les joueurs. Sincèrement, non.
Toi, ça t'aurait fait que t'aurais senti comment?
Non, mais au bout d'un moment, à partir du moment où ton coach est toujours là et qu'il te mobilise, ton président, tu le vois pas tous les jours non plus.
Ok les gars, voilà pour Angers face à Lille. Dans un instant, bien sûr, on va parler de Lyon. Les déclarations de Jean-Michel Aulas. Se voit-il la face quand il voit Rudy Garcia, le génie du foot français. Et également Rennes, bien sûr, les infos sur cette Rennes. Pourquoi les temps c'est fini? Quelles conséquences? Qui pour le remplacer? L'after est là jusqu'à minuit, à tout de suite.
RMC, l'after foot. RMC, l'after foot. Nicolas Jamain.
Et oui, on est ensemble jusqu'à minuit avec Jonathan Macardy, avec Damien Perrinel, bien sûr. Dans un instant, on parle de Rennes, bien sûr. On sera avec Pierre-Yves Leroux, notre correspondant en Bretagne, qui a bossé toute l'après-midi sur ce coup de théâtre. D'ailleurs, c'est pas forcément un coup de théâtre, hein, quand on connaît les arcanes de ce club, les tensions entre Olivier Létang et Julien Stéphan. Appelez-nous tout à l'heure, supporter rennais, Monsieur Pinault, Messieurs Pinault père et fils, ont-ils fait le bon choix entre Létang et Stéphane. On parlera de Lyon dans un instant également. Tiens, je vous rappelle également qu'on vous fait gagner 2 places. C'est le jeu RMC. 2 places pour le 8e de finale aller de Ligue des Champions. Le 18 février, Dortmund PSG. Pour cela, il faut nous envoyer dès maintenant foot au 7-32-16. Foot au 7-32-16. Si vous êtes sélectionné, vous serez là avec nous en fin d'émission. Messieurs, tiens, quelques infos avant la journée de demain. Bien sûr, tiens, info concernant l'OM qui reçoit Toulouse demain à 17h30. Jonathan, Radonjic et Mandanda étaient ce matin aux soins, mais ils postulent pour demain.
Tu stresses, hein, Jonathan?
Non, pas du tout. Hein?
Attends, c'est terrible, t'as une pression énorme quand tu joues Toulouse maintenant. Tu peux être le premier
à domicile
à ne pas... à perdre. depuis 3 mois.
OM anti-marseillisme primaire.
Mais c'est pas ça. Je dis que t'as toujours une pression quand tu joues Toulouse désormais.
Il n'y a pas de pression. Marseille est deuxième. Marseille n'a pas de pression à avoir lorsqu'ils reçoivent Toulouse.
Tu vois ce que ça fait comme ça quand on parle de la Coupe d'Europe pour le Paris Saint-Germain? Bah voilà, c'est la même chose. Ça a de pression et négative toujours.
T'as raison.
Pas de problème là-dessus.
Faut arrêter d'avoir peur. Qui a dit ça?
Un idiot?
Qu'est-ce que tu racontes là?
Je sais pas. Je sais pas qui c'est.
C'est Mbappé qui a dit ça. C'est pas un idiot.
Arrêtez de jouer avec la peur.
Faut arrêter d'avoir peur.
C'est sûr que c'est.
Messieurs, également, ce sera sans Dario Benedetto, hein, blessure au tendon d'Achille.
Mais tant mieux qu'il le fasse reposer, les cramer.
Est-ce un mal ou pas?
Non, mais en ce moment, il sert plus à rien, Pipa. Il faut qu'il fasse du frais. Bah, tu joues avec Valère Germain. Mais pour l'instant, ça ne sert
pas.
Je vais vous dire.
Bien mieux.
Moi, vous savez l'amour que j'ai pour Pipa.
Il s'est pas joué tout seul en pointe, Valère Germain.
Écoute, ça fait 2 mois qu'il est rincé, qu'il est friconfit. Ils l'ont fait reprendre beaucoup trop tôt. Alors il est arrivé avec le transfert, l'attente, etc. Mais il n'était pas prêt pour reprendre en Ligue 1. Il a joué, il a serré les dents. Ce que je sais, c'est qu'il est totalement cuit et que là, il est nul parce qu'il est cuit. Donc mets-le sur le côté et laisse-le un peu faire de frais.
À date, aujourd'hui, si on te demande s'il a réussi sa saison, Benedetto.
Ah non.
Pour l'instant, oui, je trouve. Mais pour un joueur qui découvre l'Europe, qui s'adapte, qui pour la première fois vient en Europe, qui découvre un nouveau championnat, qui joue, qui arrive blessé, qui commence sa saison blessé, il en est à 7 buts en Ligue 1, je trouve ça très honorable.
Est-ce qu'on s'est pas un peu enflammé sur lui, sur les premières prestations?
Je rigole, et tout le monde lui est tombé dessus. Avant même qu'il mette un pied sur le terrain. Après le match contre Nantes. Après le match aller contre Nantes.
Mais ça, c'est pas ça.
Non, je me souviens très bien contre Nantes. Tout le monde il a raté le penalty, ok, mais tout le monde disait quand même, il a du foot, il a des appels de balle.
Ouais, et puis après, quand il enchaîne les buts, pareil.
Juste, tout le monde le sait, mais Daniel m'a quand même fait parier un déjeuner dans un resto étoilé qui marquait pas 10 buts dans la saison.
Bah, il va peut-être gagner, Daniel.
Avant même qu'il joue. Bah non, il va pas gagner, c'est bon.
Mais écoute, on verra.
Il va refaire du frais, il va revenir, il va recommencer à être bon, il y a pas de souci. Je vous rappelle que d'autres médias disaient, mais c'est qui, pourquoi recruter un avant-centre qui a 29 ans, qui a jamais joué en Europe, qui est blessé? On en a entendu des conneries. Donc ce qu'il a dit, là, il y a quand même un juste milieu. Moi, j'ai jamais dit comme certains. Il y a quand même certains supporters marseillais qui sont un peu partis en vrille, qui disaient oui, on a pris meilleur qu'Icardi. Non. Benedetto est loin d'avoir le niveau d'Icardi. En tout cas, Benedetto est loin d'être à son meilleur niveau en ce moment. En ce moment, il est mauvais, il faut le dire. Il ne met plus un pied devant l'autre parce qu'il est rincé. Donc, que là, j'espère juste une chose, c'est que Villas-Boas le mette un petit peu sur le côté, qu'il lui refasse faire du frais, qu'il récupère bien comme il faut de son tendon, de son talon d'Achille, qu'il puisse, voilà.
Son tendon d'Achille, t'as vu?
Talon
souvent
d'Achille.
Souvent, on fait l'erreur.
Ouais, talon d'Achille.
Il y a un talon d'Achille, c'est une expression, et ça, c'est le tendon d'Achille.
Ouais, c'est ça. Alors, qui récupère son tendon d'Achille, qui refasse un petit peu de frais, et moi, je me fais pas de soucis. Il va revenir et sur les 7-8 derniers matchs de la saison, il est capable de mettre 5-6 buts. Il n'y a pas de problème là-dessus.
J'espère que l'OM sera toujours autant en confiance et en réussite, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans une équipe qui a autant de réussite que Marseille à date aujourd'hui, il ne marque pas beaucoup de buts.
Tu sais, par contre, le problème, c'est que tu n'as pas de plan B. S'il a enchaîné les matchs, c'est que tu n'as pas de plan B.
Ah, ça, on est d'accord.
En numéro 9.
Ça, on est d'accord. Mais moi, je veux juste
le cramer, ce joueur.
C'est que regardez contre Angers. Tout le monde s'accorde à dire que contre Angers, il a fait un mauvais match. Okay, contre Angers, il a dû toucher 5-6 ballons dans la zone décisive. Sur les 5-6 ballons qu'il touche, il offre 2 caviar. Mais c'est même pas caviar, c'est même pas le mot. 2 caviar, mais magnifique. Il y a cette déviation qui fait du talon pour Adonis, qui est seul face au but, qui tire dans le ciel. Donc, il peut pas faire tout seul. Alors d'une part, il est pas bon en ce moment parce qu'il est rincé, mais d'autre part, il faut bien avouer une chose, et ça, je sais pas, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler une autre fois. Marseille en ce moment est deuxième. Marseille a des résultats positifs, mais on en parlait tout à l'heure, Damien. Ouais. Et Marseille, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait un bon match. Ça fait longtemps qu'offensivement, tout dépend de Dimitri Payet. Donc c'est très difficile quand tu joues numéro 9 dans une équipe qui a pas vraiment de plan de jeu offensif d'exister. Marseille est très fort sur beaucoup de domaines. Tchaleta Tsar fait une saison que je trouve extraordinaire.
Bah, c'est le triangle de Camara,
j'admire ton sens de la mesure.
Eh ben Tchaleta Tsar, je pense que pour la première fois, je comprends pourquoi elle a été payée aussi cher. Et je pense que ça va devenir un très très bon joueur.
D'ailleurs, on parlera des salaires des joueurs tout à l'heure dans un instant. Juste, vous me direz quels sont vos 3 escrocs de la Ligue 1.
Je veux ajouter une chose là-dessus, Nico, parce que moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens, et même chez nous, qui sont totalement idiots sur le sujet. Mais Tchaleta Tsar est vraiment en train de devenir un des meilleurs défenseurs centrales de Ligue 1. Il me fait une saison qui est extraordinaire. Il est très propre. Il y a très peu de joueurs, mis à part les défenseurs du Paris Saint-Germain, qui ont une relance aussi propre que la sienne. C'est vraiment en train de devenir un super joueur de foot.
Abdelhamid, Koscielny.
Abdelhamid, c'est pas mal.
J'aime bien Koscielny.
Tchaleta Tsar, c'est au-dessus d'Abdelhamid. Sans souci. Et nos amis sur le hashtag RMC Live, les supporters marseillais, dites-nous simplement ce que vous pensez de la saison de Tchelle et Tatsar. Et tu verras, Nico, qu'il y a une forte asymétrie entre les gens qui regardent vraiment tous les matchs de l'OM et les supporters de l'OM. Il n'y a pas plus exigeant, intransigeant avec les joueurs de l'OM qu'un supporter de l'OM. Et les gens qui voient 10 minutes d'un match
à l'autre. C'est vrai que je me faisais la réflexion. À chaque fois qu'on a un supporter marseillais dans l'after, c'est assez pointu. Les mecs ont toujours une analyse assez fine, non seulement du jeu de leur équipe, très objectif en général. Quand c'est pas bon, ils le disent. Quand c'est très bon, ils le disent. Avec toujours un esprit critique, qu'on aime bien ici dans l'after, bien sûr.
Mais j'aimerais bien.
Ville de football.
Supporters marseillais, dites-nous sur le hashtag ce que vous pensez de la saison de Tchelle et Tatsar.
Mais là, aujourd'hui, ils vont te dire, et forcément, qu'elle est exceptionnelle. Après le match de Toulouse, si tu
perds un 0 contre Toulouse. Demain, je pense qu'ils seront peut-être plus mesurés, Jonathan.
Moi, je trouve que c'est en train de devenir des meilleurs défenseurs centraux.
Voilà pour OM Toulouse demain, 17h30. On débriefera ça demain soir, bien sûr, sur RMC. Tiens, Toulouse sans Amiens, sans vainqueur, sans Sanogo, sans De Séville, et toujours sans Max Alain Gradel, bien sûr. D'ailleurs, parenthèse, messieurs, mettons un petit taquet à Olympique de Marseille.
Ah bon?
Taquet personnel, l'OM qui a refusé l'accès à la conférence de presse d'un confrère du journal L'Équipe parce que Jacques-Henri Hérault n'a pas aimé un article intitulé et paru dans L'Équipe. Grégory Sertic, un gros salaire pour un minuscule temps de jeu. Hein, on parle de 180 000 euros mensuels. Il n'a pas joué cette saison du tout. Il n'a pas aimé, surtout Jacques-Henri Hérault, l'allusion aux agents communs qui lient Rudy Garcia à Grégory Sertic.
On peut réagir là-dessus ou pas?
Bref, ouais, bien sûr. Attends, je te dis juste ce que j'en pense. Moi,
t'as anticipé, toi, depuis
un moment. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, un journaliste doit toujours faire son travail. Doit toujours avoir la possibilité de faire son travail. On interdit de refuser l'accès à une conférence de presse. Et ça, pour le coup, il faut bien le préciser. Le PSG l'a fait longtemps. Nantes l'a fait. D'autres clubs de Ligue 1 l'ont fait. Si on peut donner, nous, des infos dans l'after ici, c'est parce que les journalistes ont souvent accès aux conférences de presse et notamment aux joueurs.
Alors, est-ce qu'on... C'est un scandale. Très franchement, ce qui vient de se passer là, c'est un scandale. Et ça illustre tout simplement la médiocrité et l'incompétence de Jacques-Henri Hérault. Et
en plus,
d'être incompétent, d'être un mauvais président, ça dénote sa mégalomanie et son, ses petites insécurités, sa volonté de contrôle. Il part en vrille totale. C'est une insulte au club, Jacques-Henri Hérault, qui soit président de l'Olympique de Marseille.
Et au journalisme.
Ça, je le dis depuis longtemps. Et ce qu'il fait aux journalistes, c'est simplement, à ce journaliste là, c'est simplement, mais c'est petit, c'est nul, c'est médiocre et c'est pas du tout à la hauteur de l'Olympique de Marseille. Donc en tant que supporter assumé de l'Olympique de Marseille, je présente mes excuses à ce journaliste là et j'espère tout simplement en tant que supporter de l'Olympique de Marseille, je me sens excusé. Et ben moi je suis désolé en tant que sympathisant de l'OM, je m'excuse auprès de lui et j'espère simplement une chose, c'est que Jacques-Henri Hérault qui même s'il est nul cette saison, il a eu le mérite de pas trop l'ouvrir, j'espère juste qu'il va se refaire discret et qu'il ne se refera pas remarquer par des choses aussi stupides que ça.
Voilà.
Non, mais après, tu peux être en désaccord avec un journaliste. Je pense que le plus important, surtout, c'est de conserver un dialogue. Et là, quand tu te coupes d'un dialogue, à la limite avec la presse, parce que c'est quand même ce qui te donne l'opportunité de parler.
C'est ton interface avec
exactement.
Tes supporters.
Donc, à la limite, justifie certains choix ou explique-toi à travers ces journalistes. Mais là, de couper la porte et de couper ce dialogue, c'est peut-être pas la meilleure des solutions.
De toute manière, il avait donné le ton, Jacques-Henri Hérault, dès le début de la saison. Rappelez-vous de cette conférence de presse lunaire avec Uber Eats pour présenter le sponsor, alors que tous les journalistes qui étaient présents, et il y avait Flo Germain d'ailleurs, qui voulaient avoir des informations sur la saison, sur le recrutement. Rappelle-toi comment Jacques-Henri Hérault les avait traités. Non, Jacques-Henri Hérault est en train de perdre le pédale. Je pensais que ça allait mieux parce qu'on ne l'entendait plus, mais apparemment, ça s'est empiré. Donc j'espère juste qu'il va se refaire discret.
Voilà donc pour l'Olympique de Marseille. Tiens, Zvonimir Perez nous dit sur Hashtag RMC Live. Merci. Enfin, quelqu'un d'objectif, Jonathan, sur Chalet Tatsar et Benedetto. Oui. Vraiment merci, Jonathan. Ça fait plaisir au milieu de tous ces journalistes moutons. Ou supporters moutons.
Il faut dire qu'il y a beaucoup
qui prennent leur avis, opinion, sentiment pour la réalité. Merci, After RMC. Dans un instant, on parle de Rennes, bien sûr. Hein. Nos infos sur les raisons de l'éviction d'Olivier Létang. On attend encore un peu que Pierre-Yves Leroux remonte de la zone d'interview à Angers. Lui qui suit Rennes quasiment au quotidien depuis déjà des années.
Beaucoup de boulot pour Pierre-Yves Leroux cette semaine entre Angers et Rennes.
Et puis également, il nous parlera de l'ambiance du vestiaire rennais. Et également, éventuellement, de qui pour remplacer Olivier Létang à la tête du stade rennais. PSG Lyon également dimanche, messieurs. Dimanche soir, gros match, PSG Lyon. Quelques infos. Neymar s'est entraîné avec le groupe aujourd'hui. Premier entraînement collectif depuis 5 jours pour Neymar. Alors, pas sûr pour autant qu'on le voit dimanche soir.
Ça sert à prendre le risque.
Il faut faire quoi ? Faut le ménager, Damien, ou pas ? À 10 jours de Dortmund ?
Après, tout dépend de sa blessure, très sincèrement.
Douleur aux côtes.
Voilà, c'est une douleur aux côtes. Après, si c'est pas une côte cassée.
Non,
moi, je pense qu'il peut jouer. Il a besoin de ces matchs-là. Alors après, on va dire, oui, ne pas prendre de risques.
Mais s'il aggrave sa blessure dimanche.
Oui, mais alors, dans ce cas-là, on fait jouer personne jusqu'au match de Dortmund, si on prend ce raisonnement-là. C'est-à-dire, le jour, c'est Diallo qui se blesse. Bah oui, au bout d'un moment, t'es joueur professionnel, il faut quand même que t'enchaînes des matchs. Il n'y a pas que la Coupe d'Europe non plus dans la vie. Donc non, pour moi, si il est en état de jouer et qu'il n'y a pas de risque de blessure, d'aggravation, il faut le faire jouer.
Voilà, et puis je rappelle que le PSG est toujours privé de Marquinhos qui a repris la course, d'Abdou Diallo, Colin Dagba, Juan Bernat pourrait faire son retour dans le groupe et s'entraîner encore aujourd'hui collectivement. Lyon, messieurs, avant de parler de Rennes, bien sûr, dans un instant, appelez-nous, supporters lyonnais, supporters rennais aussi, au 32-16. Alors Lyon, messieurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais Jean-Michel Aulas, il est amoureux de Rudy Garcia. Interview accordée au Dauphiné Libéré. L'avenir de Garcia à Lyon, la question est posée. L'avenir de Garcia à Lyon va-t-il dépendre d'une qualification pour la saison prochaine en Ligue des Champions ? Réponse de Jean-Michel Aulas. Nous constatons que Rudy a un savoir-faire que nous n'avions pas en termes de rigueur, de professionnalisme, d'expérience.
Les anciens, sympa pour les autres.
Genesio et compagnie, dur. Il a un sens tactique surdéveloppé. Surdéveloppé. Même moi, j'ai du mal à suivre. Il faudrait vraiment que la foudre s'abatte sur le club pour que nous ne continuions pas avec lui au-delà, en tout cas, de la saison et de son contrat en 2021. C'est peut-être ça, Jonathan. Tu as du mal à suivre Rudy Garcia. Peut-être qu'il va trop loin. Il va trop loin pour toi.
Tu veux pas te mettre avec là ?
On parlera après. Il a bien attaqué à l'OM également.
Non, quand il dit qu'en fait, Rudy Garcia, il a de la maîtrise totale sur son groupe, tactiquement, sportivement. Et qu'ensuite,
c'est
il dit.
C'est pour ça qu'on donnait les pouvoirs sportifs.
Dans le recrutement.
Dans le recrutement, ça reste Juninho et.
Non, il dit qu'il travaille de concert avec Florent Maurice et Juninho. Il dit.
Non, et parce que les patrons, c'est quand même Juninho. Enfin,
moi, je te dis, franchement, c'est de l'esbrouf. Je regrette juste une chose, c'est que la révolution que.
Tu vois de la face ou pas, Aulas?
Alors, en deux temps, je te réponds. La première chose, c'est que je regrette que la révolution que l'Olympique Lyonnais avait mis en place en début de l'été, où Jean-Michel Aulas devait prendre du recul, ne plus trop se mêler du sportif, tu vois, juste profiter, laisser Juninho un petit peu gérer. Ça n'a pas eu lieu parce qu'il revient, il se sent obligé de parler parce que ça va pas non plus très bien dans son club là. Donc il ressort la vieille technique, tu vois, du paratonnerre où il prend un petit peu la foudre. Il est obligé de lui de parler et là il nous sort des saucisses parce que franchement les résultats de Lyon avec Rudy Garcia, c'est pas encore ça. Il y a un petit peu du mieux par rapport à une période qui était quand même très médiocre, mais c'est pas non plus à la hauteur du niveau et du potentiel qu'a son effectif là. Après, la deuxième chose, pour mettre un peu d'eau dans mon vin, je te dis, moi je peux comprendre ce que dit Jean-Michel Aulas, parce que même si j'ai vraiment été très critique envers Rudy Garcia, ça n'a jamais été contre l'homme. C'est plus sur ses capacités à, d'une part, organiser son équipe quand il était à l'OM, et d'autre part, à faire des recrutements totalement foireux. Moi, ce que je vois juste, c'est que Rudy Garcia, ça a l'air d'être quelqu'un qui est extrêmement sympathique. Ça, je pense que c'est typiquement le genre de personne que tu rencontres, tu vas boire un verre avec lui, ça peut vite devenir ton copain.
Ah ouais.
Ça, je l'ai toujours dit. Et je pense que les deux personnalités de Garcia et Aulas sont faites pour s'entendre. Parce qu'il y a une adéquation, tu vois. C'est typiquement des atomes crochus entre deux personnalités. Après, attention. Eh ben, les deux ont l'air d'être super bonnards, bon vivant, assez ouverts. Moi, je trouve. Par contre, attention. Pour conclure, après, je laisserai la parole à Damien. Attention. On sait très bien qu'il y a toujours une lune de miel avec Rudy Garcia. Une lune de miel qui va durer la première saison. Attention après, parce que ça finit toujours en au-bout.
Bah, justement, je veux rebondir là-dessus. Je ne comprends pas du tout le timing de cette intervention de Jean-Michel Aulas. Alors tout ça pour camoufler un peu le match nul contre Amiens à domicile il y a deux jours, c'est ça ? Parce qu'on sait très bien qu'avec... Il lui reste quoi, un an de contrat, Rudy Garcia, il me semble.
En 2021, il est là.
En 2021. Quel est l'intérêt aujourd'hui de se prononcer sur un avenir radieux avec Rudy Garcia
Alors
que tout ne va pas si bien. On sert quoi ? On sait très bien que la qualité principale, et ça fait partie d'une qualité super importante chez un entraîneur, c'est une qualité d'orateur. Et Garcia, on peut dire tout ce qu'on veut, il l'a, bien sûr. Et les présidents, ils aiment bien entendre ça. Quelqu'un qui vont les impliquer dans le jeu, leur essayer de faire comprendre certaines choses. Mais aujourd'hui, force est de constater que si on est pragmatique, la qualité de jeu de l'Olympique, c'est pas terrible. Que alors certes, il y a une amélioration des résultats par rapport à ce qu'on a eu avec Silvinho, mais qui se régale aujourd'hui lorsqu'il regarde un match de Lyon ?
J'ajoute une chose qui, je pense, c'est du Jean-Michel Aulas. Et ça, encore une fois, ça mettre au crédit de Rudy Garcia, c'est que je pense que Rudy Garcia a quand même un très fort talent pour arriver à amener des jeunes à maturité. Il a fait l'OM avec Max Lopez, avec Bouba Camara. Il a quand même ce don-là, tu vois, de bien incorporer les jeunes, de pas y aller trop rapidement.
Il le fait avec Maxence Cacré, avec Ryan Cherki doucement.
Et ça, je pense que ça parle à la fibre lyonnaise de Jean-Michel Aulas.
Ouais, c'est sûr.
Je pense que c'est un très gros point pour lui.
Non, en plus, non, il le fait.
Ça coûte moins cher et ça peut rapporter gros.
Et puis, il le fait pas n'importe, comme tu l'as dit, il le fait pas n'importe comment, parce que je pense que le Maxence Cacré, il le fait jouer parce qu'il mérite de jouer. Et tout de suite, il lance un jeune parce que ça lui apporte un plus dans son effectif.
Mais il a toujours été bon pour faire intelligence. Ça. Regarde à Lille avec Eden Hazard, même si Eden Hazard, c'est Claude Puel qui l'a façonné. C'est quand même lui qui l'intègre en équipe première.
C'est un phénomène, Eden Hazard.
Oui, mais il l'intègre d'une manière intelligente. Ouais, Maxime Lopez, qui avait fait des débuts en fanfare, il le gère intelligemment. Bouba Camara, tout le monde savait que c'est au centre qui suivait les jeunes de l'OM. On savait tous que c'était un phénomène, mais il l'intègre intelligemment. Il a à la fois ce mélange entre avoir l'audace de s'appuyer sur des jeunes, mais de savoir les sortir et de pas leur mettre trop de pression. Et ça, c'est à mettre à son actif.
Alors après, je mets un bémol à ce que je dis, un super orateur, comme sa conférence de presse d'aujourd'hui, il me semble, quand il dit on lui pose la question, je crois, contre les gros, il n'y a pas eu de résultat. Il dit, ah si, on a presque gagné.
C'est ça, je suis pas d'accord avec toi, c'est pas un très bon communicant, Rudy Garcia.
Non, mais en interne, il est bon.
Tout ce qu'il ne faut pas faire, en interne.
En interne, il est très bon, je pense.
Mais sincèrement, c'est pas le gars hyper affable et souriant en conférence de presse.
En conférence de presse, non.
Qui trouve des excuses là où il n'y en a pas, qui refait les matchs et les décisions arbitrales.
Rappelle-toi, si on n'avait pas pris plusieurs fois 4-0, on serait la meilleure défense de Lyon.
Mais même aujourd'hui, enfin, j'ai pas la citation exacte en tête, mais c'est vrai.
Oui, il dit on a presque gagné.
On a presque gagné.
Mehdi, supporter Lyonnais, est avec nous, 32-16. Salut Mehdi, bienvenue dans l'after.
Salut Nicolas, salut à toute l'équipe.
Ouais, salut Mehdi. Est-ce que t'es amoureux, transi, comme Jean-Michel Aulas de Rudy Garcia?
Je pense que oui.
Ah non, mais la pilule, elle a du mal à passer, quoi. Je veux dire, j'en ai marre, quoi. Je veux dire, ça fait 5-6 saisons qu'on commence trop mal les débuts de championnat. On est tout de suite largué, on est obligé de faire des deuxièmes saisons de les remontadas, quoi, pour remonter au classement. Et puis là, cette année, je pense que ça passera pas, quoi, parce qu'à un moment donné, l'écart est réduit et puis on avance dans le championnat et puis là il y a pas de fond de jeu, quoi. Je veux dire, ça fait 4 mois qu'il est là, Garcia, à chaque fois moi il me fait rire, quoi. Je veux dire, le carnet de chair qui était ouvert cet hiver, quand tu vois que Villas-Boas avec deux joueurs de qualité et un peu d'envie, ils sont à plus de 10 points de nous, alors qu'au début de la saison tu m'aurais dit que l'OM serait à 10 points de nous à 15 journées de la fin du championnat, j'aurais rigolé, quoi. Je veux dire, j'aurais dit mais il y a pas photo, quoi. Je veux dire, comment ça se fait qu'on soit largué autant, et que là, on était revenu un peu dans le game, entre guillemets. On était revenu là il y a 2 journées, et puis là, on a pris un point sur 6 entre Nice et Amiens. Et là, on va aller au parc. Bon, moi, je dis la vérité, ça sent le tarif, quoi. Ça sent 3 ou 4 euros, il n'y aura pas photo, quoi. Si Paris joue à son niveau, voilà. Donc, à un moment donné, on ne va pas s'exonérer. Moi, je trouve le recrutement, il est raté. Thiago Mendes, ça coûte une blinde, il n'est pas bon. Andersen, on ne va pas en parler. Je suis venu ici sur vos antennes dire qu'il fallait aller tard à gauche. Et quand je vois Ricardo Rodriguez partir au PSV et que trois journées après, je vois encore une fois Marçal prendre un carton rouge.
Ah, ça fout la haine, j'avoue là. J'avoue, là, le timing.
C'est pas possible, quoi.
Mais Mehdi, au-delà de ça, surtout, sur cette déclaration de Jean-Michel Aulas, que je trouve l'incohérence, surtout, c'est avec il a pris la parole il y a 2-3 semaines, il me semble, en disant qu'il avait cédé aux supporters lyonnais, justement.
Et pour Bruno Genesio.
Pour Bruno Genesio, ouais.
Voilà. Et là, aujourd'hui, il vient nous dire que Rudy Garcia est un modèle de professionnalisme et d'acharnement, enfin, que tactiquement, c'est un maestro. Donc,
c'est le Scorsese du foot.
C'est incohérence entre ces deux déclarations, je trouve, pourtant, à intervalles très courts.
Il y a toujours une lecture à faire, hein, de ce que dit. Il y a toujours un timing et une raison. Peut-être qu'on l'a pas encore, la raison.
Bah, si, on va le faire, on va le dire après.
C'est quoi ta
raison? Attends, mais laisse finir.
Vas-y, Mehdi.
Ouais, non, juste pour répondre à Damien, c'est juste que dans ce cas-là, si c'est un Scorsese du foot, bah, il a qu'à remonter au classement, quoi. À un moment donné, moi, je veux bien.
Si Scorsese a fait des mauvais films aussi, enfin, des films qui n'ont pas marché, hein. Qui n'étaient pas dans les classements de box-office, hein.
Le problème, c'est qu'à Lyon, t'as l'habitude de faire des romans, des films à retournement, quoi. Je veux dire, depuis 5-6 ans, tu dis la fin va être géniale et tout. Mais là, je me rappelle très bien, je tapais sur Bruno Genesio, mais au moins, là, on a. Il y avait de temps en temps, je me rappelle, un super match contre Monaco, la Manita
contre Paris. Mehdi, t'as raison, Mehdi, en fait.
Paris.
Lyon, c'est un mauvais film pendant 1h40. Et puis il y a 5 minutes magistrales à la fin. Tu vois, c'est incroyable. Ça, tu restes là-dessus.
C'est un peu ça.
Et l'année d'après, ça recommence. Tu vois, le 2 au cinéma. C'est nul.
Mais tu retournes quand même.
Fanger, une chute incroyable.
S'il y a au moins 5 minutes de bien, c'est toujours mieux qu'un film français de Tapif ou un truc comme ça.
Non, mais ça, c'est gratuit, monsieur. Un peu, c'est nul. Ok.
Non, mais voilà, après, il y a plein de choses qui vont pas. J'attends beaucoup du petit Guibarèche, moi, qui vient d'arriver, mais le temps qu'il arrive, ça sera pas avant la saison prochaine. Et puis, c'est pareil, hein, c'est toujours pareil. Si Lyon, il n'y a pas de Ligue des Champions, bah, il y a un peu moins de rentrée d'argent, et puis tu peux moins garder les joueurs, quoi.
Ouais.
Je veux dire, pour ça, Dembélé, sans sans Ligue des Champions, à voir sans Ligue des Champions, ça va dire salut, quoi.
Mehdi.
Ils vont dire salut à ses, ouais.
Toi, tu interprètes comment la sortie de Jean? Tu penses qu'il a fait, pourquoi il a fait cette sortie Jean-Michel Aulas?
Ah, je pense qu'il met un petit coup de pression. Il dit, comme je dis toujours, hein, Jean-Michel Aulas, quand il monte au front, c'est pour, entre guillemets, protéger le groupe. Mais je pense que le discours en interne, c'est les gars, maintenant, c'est à vous de, moi, je vous défends, en externe, mais vous, en interne, vous devez remonter, vous devez remonter à la barre, quoi.
Et surtout, faut pas oublier que Rudy Garcia, après le match d'Amiens, il a quand même mis un petit taquet à ses joueurs aussi, individuellement.
Oui, je pense qu'il a deux, voire trois communications différentes. Il y a la communication interne, avec le vestiaire, dans ses bureaux, avec ses dirigeants, son staff, et également avec la presse, parce que je pense que ce qu'il dit là, c'est
un... Ouais.
Voilà. Aussi, c'est excessif. Mais il s'en fout de ce qu'on pense et de ce qu'on dit d'ailleurs.
Il y a deux choses. Je pense, la première chose, c'est que, indirectement, il en profite pour renouer. Si il donne sa confiance comme ça à Rudy Garcia, c'est pour dire aux joueurs de se bouger le cul. Mm-hmm. Voilà. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui, pour l'instant,
vous avez un coach, exceptionnel.
Maintenant, tout est dans vos mains. Et n'oubliez pas une chose. Rudy Garcia a signé, même, il est en fin de contrat en 2021. Il y a quand même un engagement contractuel avec lui. C'est un club qui est coté en bourse. T'es obligé quand même de maintenir une certaine stabilité dans le discours. Ouais, c'est important, raison. Le cours de l'action, c'est bien important, sûr. Ce que tu dis.
C'est vrai qu'on essaie quand même de comprendre la raison, quoi.
Tiens, messieurs, Mehdi, reste avec nous au passage. Également, il a mis un tac à l'OM, hein. Il aime bien faire ça aussi. Il a dit, s'il devait terminer devant Lyon, il devra respecter les règles du fair play financier pour pouvoir jouer la Ligue des Champions. Je remercie l'OM de me donner l'occasion de dire qu'ils sont complètement en dehors des clous du fair play financier. Faire, avec la bénédiction de la DNCG.
Là, c'est Nasser Al-Khalifi qui est content. Pour une fois que c'est plus sur lui et que c'est pour l'OM.
Non, ce qui m'a attaqué à l'OM et à la DNCG également, qui semble, selon lui, fermer les yeux, sauf que non.
Sans réaction.
Très bien.
Excuse-moi, Nico. Jean-Michel Aulas, il est comme ça. Bah, après, moi, j'aime bien ces petits taquets parce qu'en fait, c'est de l'enfumage. Quoi, je veux dire. Ça permet de justement, en renvoyant la balle dans le. En jetant de la poudre aux yeux, ça permet de détourner l'attention sur ce qui se passe dans le club. Quoi. Mais à un moment donné, on peut pas. S'exonérer de ce qui se passe. Et puis, il y a des joueurs, moi, ils sont plus au niveau, quoi. J'ai encore vu le match contre Amiens. Traoré, j'en peux plus. Cornet, c'est des joueurs qui sont.
Tiens, tout à l'heure, Traoré, c'est mon chouchou des plus gros salaires incroyables de Ligue 1. On en parlera dans un instant.
Ouais, mais en plus, le pire, c'est que Mino Raiola lui a fait un salaire qui augmentait avec le temps. Et lui, il est toujours plus aussi nul de plus en plus.
Non, mais tout à l'heure, on va se marrer, les gars. Dans un instant, on va vous.
Bravo, Mino.
Voilà, il est fort, là, le Raiola.
Bravo.
T'aurais dû l'avoir comme un joueur, Damien.
Ah, mais c'est sûr.
Tu me diras combien t'as gagné au maximum également, Damien, dans un instant.
Oui, évidemment. La même chose qu'à RMC, tu vois.
Tiens, également, Mehdi, bonne nouvelle, je sais pas pour vous, Bruno Guimaraes arrive lundi, ça y est. Il joue contre l'Argentine.
Ça, c'est bien.
Dernier match de tournoi pré-olympique là, avec l'Argentine contre le Brésil. Dans la nuit, dimanche à lundi, hop, il prend l'avion, il arrive à Lyon. Il va falloir un peu de temps quand même, hein, que le garçon.
Je peux demander des renseignements à Jonathan sur Guimaraes, parce que moi, j'avoue que j'ai.
Je t'ai dit, moi, je l'ai vu jouer.
Alors,
j'ai dit pas plus que ce que j'en ai vu. Je l'ai vu jouer 2-3 fois en Copa Libertadores. C'est un très bon joueur. Et il a une densité physique et il est méchant au duel et il a une très belle frappe. Ça m'a semblé être tout d'un très bon joueur. Après, je l'ai vu en Libertadores 2-3 fois. Mais c'est quand même ça m'a l'air d'avoir, tu vois, d'être le genre de joueur. Tu le vois une fois, tu dis oui, lui, il a quelque chose.
Voilà. D'accord. Est-ce que c'est plus un Thiago Mendes ou un. Hein, plutôt 6-8 ou plus un 8 qui se projette vers l'avant.
Plutôt un 8 voilà, qui se projette.
Que... Ok, donc ça veut dire que. Ok, d'accord. Voilà. Parce que là, ça veut dire que Thiago Mendes jouera 6.
Si tu veux, c'est pas une sentinelle, quoi.
Non, très bien. Bah, parce que à chaque fois que je vois Thiago Mendes, moi, j'en ai marre. Je me dis, c'est pareil, ou 6-7
là. Ça devrait être une sentinelle, voilà, Thiago Mendes.
Allez, j'attends l'erreur de 4 singles.
Merci, Mehdi.
Ciao, Mehdi.
Merci, Nico.
Salut, tu reviens quand tu veux dans l'after. Avec plaisir, on t'accueille, bien sûr. Je vous rappelle PSG Lyon dimanche soir. À 21h. Ah, c'est dommage, j'avais quelques infos à donner encore. On va le faire juste après la pause avec Jonathan Macardy et Damien Perrinel, bien sûr. Dans un instant, on parle bien sûr de la situation du Stade Rennais. Olivier étant out. Julien Stéphan est-il complètement renforcé bien, dans cette prérogative?
Pourquoi j'appelle Julien? Hein, tu préférerais là qu'il s'appelle Julien?
J'ai dit Julien?
Ouais. Julien Stéphan?
Non, c'est peut-être lapin.
T'as dit Julien? Non, Julien.
Ah, d'accord, bon. Julien, peu importe, si je te reprends à chaque fois, Jonathan, on n'a pas fini.
Julien,
Jonathan. A tout de suite!
Oh, il est vexé.
RMC. L'Afterfoot. Nicolas Jamain.
Avec Jonathan Macardy, avec Damien Perrinel, bien sûr. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Allez, dans 15 minutes, Polo Breitner sera avec nous pour nous parler d'une première casserole qui est sortie.
L'excellent Polo.
À Londres. L'excellent Polo Breitner. Et également, le stade Rennes.
année. On attend, pour être tout à fait transparent avec vous, Afterien, l'arrivée sur ces lignes, comme on l'appelle dans le jargon radiophonique, de Pierre-Yves Leroux, notre correspondant en Bretagne, qui va venir avec pas mal d'infos sur le Stade Rennais et décrypter également la raison de l'éviction d'Olivier Létang, alors que c'est incroyable. Les clubs français, un peu comme Marseille d'ailleurs, ont une capacité, une propension à flinguer leur bonheur, tu vois, comme ça, sur les déclarations, des décisions, c'est fou. Ouais. Tout va bien, mais...
Ouais, tout va bien à la surface, hein, apparemment, mais bon. En interne, parfois...
C'est beau, c'est plein de panaches, c'est une sitcom, c'est un peu, tu vois, ça fait penser aux anges de la télé-réalité.
Je ne sais pas de quoi tu parles, je ne connais pas.
Ah oui, bien sûr, mais moi, je crois que je regarde ces âneries.
Qu'on arrête de se mentir. Quand on passe dessus, on reste quand même deux minutes. On fait, voilà.
C'est
et après, on zappe. Mais voilà, on reste quand même deux minutes dessus.
C'est un peu malsain. C'est, tu dis, c'est nul. Tu dis,
non.
En fait, quand tu regardes, c'est
que tu te sens intelligent.
Bah, c'est ça.
Voilà.
Tu te sens vraiment, t'as l'impression d'être un prix Nobel.
On va faire comme tout le monde, hein. Regarde les deux.
T'es en train d'insulter beaucoup de femmes de joueurs de footballeurs.
Pourquoi?
Beaucoup de femmes de footballeurs ont fait des
émissions
de télé-réalité.
Tu ne me regardes pas quand tu dis ça.
Je pense que
Anthony Martial.
Je pense sincèrement que pour faire ça, faut être un peu limite.
Tu sais qu'on m'a proposé ça.
Ouais, mais
on m'a proposé.
C'est vrai que tu passerais bien, toi.
Ouais, non.
Oh là là.
Mais non. Mais non, mais ça.
Fais-toi respecter, Damien.
C'est le beau gosse de la terre, Damien Perrinel.
Pas en France, aux États-Unis, on m'a proposé ça.
Tu vois, moi, c'est pas pire aux États-Unis.
60 millions, ça me suffit pas.
T'as refusé.
Eh oui, je peux pas. J'avais émission after le soir, j'ai pas pu y aller.
C'est vrai que c'est bien mieux payé l'after, j'imagine.
Exactement.
Voilà. C'est quand même bien plus respectable, faut se le dire aussi. Hein.
Messieurs, voilà, le journal L'Équipe a sorti aujourd'hui son traditionnel numéro sur tous les salaires des joueurs et entraîneurs de Ligue 1, et également joueurs et entraîneurs à l'étranger. Je vous ai lancé un petit défi avant de faire l'after ce soir, messieurs. Vous allez me donner vos top 3. Top 3 plus gros scandales de salaire de la Ligue 1. Je rappelle que sur les 14 joueurs les mieux payés de notre championnat, 13 sont parisiens. Le seul, Wissam Ben Yedder, s'est glissé à la 13e place d'ailleurs, avec 650 000 euros bruts. On parle en brut, c'est important de le préciser. Et par mois, salaire mensuel.
Tellement mérité pour Ben Yedder.
Damien, vas-y, ton top 3.
Le top 3 obligé, on ne peut pas en mettre plus.
Si,
il y en a plus. Hein. Non, mais dans l'ensemble, sinon, il y a au moins la moitié des joueurs qui sont surpayés en Ligue 1. Parce que le niveau moyen du joueur, pour moi, est. Voilà,
c'est ça qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, un joueur moyen de Ligue 1, il est à 80, 90, 100 000 euros.
C'est incroyable. Il n'y a aucune jalousie hein, de ma part quand je dis ça, mais c'est vrai que parfois, surpayer le joueur moyen, c'est peut-être ce qui nous met dans la difficulté.
Exactement.
Mais sinon, un petit focus sur. Pas sur un joueur, sur un entraîneur, sur Moreno. Quand même, bravo. Première expérience d'entraîneur, 270 000, c'est ça, par mois.
Ouais.
Derrière, je mets Mapou, Yungambiwa, parce qu'il a signé son contrat quand même il y a quelques années. Et déjà, de signer à ce tarif-là, il y a 4-5 ans.
Rappelle-nous.
Chapeau. Il est à 280.
Ouais, je crois, 280 000 euros bruts. Ouais.
Et le dernier, Wesley Saïd. Qui performe à Toulouse. Non mais au-delà de ça, c'est-à-dire, ce n'est pas contre le joueur. Voilà,
précisément
pas, aucunement, parce que je suis très content
c'est
de l'argent qu'il gagne. Exactement.
Budgétaire des clubs, en tout cas financière des clubs,
bien
qui est
sûr.
Incroyable.
Et c'est pas en tant qu'ancien joueur que je vais dire qu'un tel et tel est trop payé. Je me dis mais si tu gagnes ça,
raison,
mais,
hein.
Mais bravo et je suis très content pour toi que tu prennes ça. Maintenant c'est un joueur qui venait de Dijon quand même et qui signe à Toulouse et qui a ce salaire-là.
Rappelle-nous.
Bravo. 110, il me semble.
C'est pas mal. Hein.
110 000 euros.
120,
ouais.
J'avais quelque chose à 10 000 près. Hein. Donc voilà.
Jonathan, je crois que je les connais, on peut les faire avant toi.
Kevin Strootman.
Évidemment. Voilà. 500 000 euros.
Ouais, c'est quand même énorme. Et en plus, ça a foutu la merde dans le vestiaire, donc d'autant plus. Je suis obligé
Il est très apprécié dans le vestiaire, Strootman.
Ouais, mais son salaire avait foutu un petit peu
Le
way. Je suis obligé de parler de Mapou Yungambiwa parce qu'il ne joue pas. 280 000 euros, c'est énorme. Et il ne prend un joueur qui fait. Aucun match, en fait, il est payé à rien faire.
Oui.
Et je suis obligé, je sais qu'Arthur Robert m'avait interdit de le mettre dans mon classement, mais je suis obligé de le dire, parce que c'est un petit peu ma marotte. Mais Grégory Sertic, au salaire qu'il a, c'est un emploi fictif, c'est Pénélope Sertic ce mec. C'est Pénélope Sertic, et là, Damien...
180 000 euros
mensuels.
Bravo.
Je suis d'accord avec toi quand je dis bravo. Sauf que là, c'est l'OM... Et
ça te fait mal.
Vu comment il est arrivé, avec Rudy Garcia, mal. Avec les agents...
Mais
il a raison, c'est pas contre lui.
Mais demain tu lui fais ce chèque-là, tu y vas tous les jours.
J'ai rien contre Strootman et j'ai rien contre Sertic, mais ça dénote encore une fois l'incompétence de la direction olympienne.
Et voilà,
et ça fait
c'est
quand même
ce
mal
dont on parle en fait.
Ça fait mal.
Moi demain je te propose 50 000 euros bruts par mois pour venir dans l'after et finalement on te met sur la touche.
tu vas quand même les prendre.
Les prendre, mais je suis très, très idiot.
Oui, bien
donc
sûr.
Voilà, exactement. Je trouve que Jacques Monréau est un idiot sur le coup pour les salaires. Et juste une dernière chose, petite parenthèse. Moi, j'ai envie de dire, parler d'un joueur qui n'est pas assez payé.
Allez.
Je vais parler de Florent Thauvin. Je trouve que quand je vois les salaires de beaucoup de joueurs, je vois le salaire de Florent Thauvin.
420 000.
On va oublier qu'il est blessé, qu'il a pas joué. Je pense que Thauvin mériterait d'avoir un petit peu plus de ce qu'il a fait sur les deux, trois dernières saisons.
422 000 euros.
Et ben, je pense que c'est.
Les miens rapidement.
Proportionnellement par rapport à Strootman, il est sous-payé.
Les miens rapidement, mon champion Bertrand Traoré, 350 000 euros bruts mensuels. Bravo Bertrand. Non, mon dauphin énorme, Loïc Rémy, 270 000 euros bruts, plus gros salaire lillois. Et Fabregas, alors là.
Ah oui, j'aurais dû le mettre. Et oui. Ah
ouais. Champion. Tout sur le CV, hein. Évidemment, il est éloquent, son CV. 600 000 euros bruts. Il lui reste encore 2 ans et demi.
Au-delà de ça,
bravo Fabregas.
Quand tu regardes.
Qu'on parle de Rennes.
Vite fait, quand tu regardes le salaire des entraîneurs. En Ligue 1, aujourd'hui. Comment veux-tu que quelqu'un qui gagne 5, 6, 7 fois moins que son joueur peut-il dire à son joueur, écoute, maintenant, il faut que tu joues comme si, il faut que tu ailles courir, il faut que tu fasses ça. C'est impossible, c'est trop compliqué.
Oui, effectivement. Voilà pour les salaires. Alors là, on va accueillir le plus gros salaire des RMC Sport.
Il paraît, ouais.
Il est à 2700 euros bruts mensuels. Pierre-Yves Leroux est avec nous. Bonsoir Pierre-Yves.
Je pensais que j'avais été augmenté récemment.
Salut Pierre-Yves.
Ça, c'est dans un mois que tu le sauras. Bienvenue dans la
Salut Pierre-Yves.
Bonsoir à tous.
En direct du stade Raymond Coppa d'Angers, on t'a commenté la victoire lilloise sur Angers, mais tu es là pour
avec
parler.
Avec un bon Loïc Rémy, je te signale.
Avec un bon Loïc Rémy, oui. Qui a une belle frappe, notamment au moment qui passe 20 mètres au-dessus du but.
Il était bon.
Pour parler de Rennes, bien sûr, hein, c'est un des clubs que tu suis depuis des années déjà, Pierre-Yves. Appelez-nous supporters rennais, bien sûr, au 32-16. Votre avis sur la décision de la direction rennaise de mettre d'écarter clairement Olivier Létang, arrivé il y a maintenant un peu plus de deux ans. Il était président exécutif du stade rennais et merci, au revoir. Appelez-nous, Rennes est-il sabordé en plein vol? Pinot a-t-il fait le bon choix entre Stéphane et Létang? D'abord, rappelons quand même que sous Létang, Rennes a vécu sa période la plus glorieuse quasiment, avec notamment une victoire en Coupe de France, avec deux qualifications européennes, un beau parcours en Europa League jusqu'en huitième de finale, et actuellement troisième de Ligue 1. Bon, Pierre-Yves, pourquoi Rennes s'est-il séparé d'Olivier Létang?
Eh bien, forcément, toi tu présentais ce qui était plutôt positif, et il y en a des choses positives depuis l'arrivée d'Olivier Létang en novembre 2017, mais c'est vrai qu'il y a aussi des éléments un peu plus complexes et qui sont nés notamment il y a quelques mois maintenant à la sortie de l'été, avec des tensions fortes entre l'entraîneur Julien Stéphan et puis le président délégué, en raison d'un mercato qui n'a pas trop plu à Julien Stéphan et qui a rappelé plusieurs fois que bien il n'avait pas eu les renforts suffisants par rapport au départ et par rapport aux ambitions qu'on lui demandait forcément au niveau du championnat. Donc il y a eu des tensions, vous vous en souvenez, on en a parlé souvent depuis quelques mois, des petites piques et résultat, bien deux hommes qui ne se parlaient quasiment plus hein, depuis quelques mois. Donc ça forcément c'est un élément qui est remonté rapidement aux oreilles de la famille Pinot. Et puis dans ce club en interne, il y a eu de nombreux départs aussi depuis deux ans maintenant. Et il y a des arrêts de travail, une ambiance qui est compliquée parce que
tu parles du personnel administratif également, hein, pas que des joueurs.
Voilà, du club là vraiment administratif effectivement, parce que Olivier Létang, c'est un homme de caractère. Il a bousculé des choses forcément en arrivant. Il a amené de nouvelles méthodes de travail et ça a pas forcément fonctionné avec tout le monde. Et puis il y a ce timing qui peut paraître surprenant parce que c'est vrai qu'on se doutait qu'il y aurait une séparation, que l'un des deux partirait, soit Julien Stéphan, soit Olivier Létang. Et comme Julien Stéphan a été prolongé, on se disait que à la fin de l'année, ça serait plutôt le départ d'Olivier Létang. Mais là, le timing est un petit peu bizarre. Alors, comment expliquer ça? Peut-être tout simplement qu'on est le 7 février, que depuis 8 jours, le mercato est terminé. Olivier Létang, qui était responsable du mercato, puisqu'il n'y a plus de directeur sportif et de responsable surtout du recrutement, puisque Jean-Luc Buisine est parti, eh bien c'est Olivier Létang qui gérait beaucoup tout ce recrutement, et bien le mercato est terminé et ça a peut-être été la date choisie par la famille Pinot pour maintenant chercher un autre président délégué et puis mettre en place tout ce qu'il faut avant le prochain mercato d'été et de nouvelles ambitions, pourquoi pas.
Il a appris quand juste Olivier Létan qu'il était écarté?
Hier, c'est très récent, hein, ça, c'est vraiment il y a quelques heures, et forcément il a été très surpris comme ses proches, les hommes qui sont autour de lui. Il a amené beaucoup de gens depuis qu'il est arrivé, de ses anciens clubs de Paris, de Reims notamment, donc ça a été quand même vraiment un coup sur la tête pour Olivier Létan.
Vous voulez réagir, Damien?
Ouais, ben enfin, il y a forcément beaucoup de choses à dire sur la manière de gérer ce club, sur la personnalité aussi d'Olivier Létan. Quand si on s'en tient aux faits et aux résultats, on peut dire que son arrivée et depuis qu'il est au club, c'est une grande réussite d'un point de vue sportif. On n'a jamais vu autant d'ambition, en tout cas, et le retour des sourires chez les supporters rennais que depuis qu'il est arrivé, avec la finale en Coupe de France, avec la cinquième place l'année dernière. Après, malheureusement, chez Olivier Létan, c'est quelqu'un qui a une grosse personnalité. C'est quelqu'un qui est clivant. C'est quelqu'un qui a un fort ego.
Toi, tu as eu des échanges avec lui, tu l'as connu un petit peu.
Oui, mais on avait échangé à l'époque pour un club, c'est quand il était à Reims. Mais au-delà de ça, c'est quelqu'un forcément qui va prendre des décisions et qui va peut-être en oublier par moment le côté humain.
D'accord.
Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on est un manager, en tout cas, je dis ça à mon humble place, hein, mais quand tu es manager, faut vraiment faire attention au côté humain. Et au bout d'un moment, quand tu as plus d'ennemis que de gens qui te suivent, eh, forcément, tu peux être en difficulté, je pense, et même en étant président. Après, dans un club, la personne la plus importante pour moi, c'est le coach. Le coach, c'est celui qui t'inspire en tant que joueur. C'est celui qui crée une dynamique dans un club. C'est celui qui va te tirer vers du positif. Mais c'est pour ça que le président est très important, parce que c'est lui qui doit décider le coach. Maintenant,
un coach passe plus de temps avec des joueurs qu'un président.
Pour moi, la personne la plus importante dans un club, c'est le directeur sportif. C'est lui qui est garant de la ligne et de conduite que le club adopte sur le moyen terme. Et les entraîneurs, voilà, tu peux le changer, le remplacer. Ou ça peut être prendre un entraîneur qui va faire une étape pour prendre après la classe au-dessus de l'entraîneur. Mais c'est le mec qui est voilà,
qui garant, la politique globale,
qui est garant de la politique sur le long terme.
Aujourd'hui, qui est la personne la plus importante à Marseille, selon toi?
Mais il n'y a pas de directeur sportif, c'est ça le problème?
Oui, mais si, il y en a. Il y en a.
Oui, Penelope Zubizarreta.
Voilà.
Oui.
Donc aujourd'hui, quelle est la personne qui a inspiré qui a inspiré cet espoir, Damien, chez les Marseillais?
Damien, je suis d'accord, mais c'est totalement symptomatique d'un club qui est malade et mal géré.
Je suis pas sûr.
Quand l'entraîneur a cette place-là, c'est symptomatique d'un club qui est mal géré.
Je suis pas. Bien sûr. Mais voilà.
Qui est directeur sportif à Rennes?
Il y en a pas.
Il y en avait pas.
Alors, c'est intéressant ce que dit Damien à l'instant, hein, sur l'importance du coach, peut-être prépondérante par rapport au président. Sauf que Pierre-Yves, ce dont on s'est rendu compte vraiment nous aujourd'hui à distance, c'est qu'il y avait une vraie relation affective quand même entre les joueurs et Olivier Létan.
Oui, parce que c'est vrai que ça a été surprenant de voir que au moment de l'entraînement à huis clos, avant ce match de demain contre Brest, les joueurs ont manifesté leur désaccord avec la décision quand elle leur a été annoncée et qu'ils ont refusé d'aller sur le terrain pendant quelques minutes, et puis que tout est après calmé. Mais ça montre bien effectivement que un certain nombre de joueurs, en tout cas, étaient attachés à la personnalité.
C'est normal, non?
Mais oui, puisque
la moitié sont venus par lui.
Voilà, puisqu'il est aussi responsable du recrutement, donc il y a un lien forcément aujourd'hui, et il y a un peu ce mélange des genres aussi, je crois, qui n'a pas plu trop du côté de l'actionnaire. Moi, dans l'entourage de l'actionnaire, on m'a dit à un moment donné, quand tu es directeur général, tu n'es pas l'actionnaire, et il avait tendance un petit peu à
être un peu directeur sportif
et voilà, être avoir plusieurs rôles.
Pierre-Yves, quand tu choisis de prendre Olivier Létan dans ton club, tu sais très bien que c'est quelqu'un qui a quand même qui connaît le football, qui a joué, qui a été professionnel, qui a passé derrière des diplômes de management, ainsi de suite. Et une fois, alors qu'il était à Reims, il faisait un peu la même chose. C'était quelqu'un qui était assez, qui avait plusieurs casquettes.
Omnipotent, ouais.
Omnipotent, exactement. Et donc, fallait aussi peut-être s'y attendre en tant qu'actionnaire.
Et oui, mais ça a été le problème aussi avec Julien Stéphan, quoi. À un moment, je pense qu'il a voulu prendre un petit peu trop de place. Et puis, il n'a pas forcément apprécié que Julien Stéphan prenne autant la lumière. parce que c'est forcé. Julien Stéphan, avec cette victoire en finale de la Coupe de France, il a énormément pris la lumière.
Oui, puis c'est aussi un gros caractère, comme tu le disais, Julien Stéphan. Et...
Ah, ben bah, il se laisse pas marcher sur les pieds. Il nous a vraiment surpris, Julien Stéphan, je vais vous dire. C'était en début novembre, je crois. Alors que tout s'apaise, tout se calme. Et lors d'une conférence de presse, il remet le feu en reparlant de ce mercato et en attaquant son président alors que les choses s'étaient un petit peu apaisées. Et là, il nous a montré qu'il n'allait pas se laisser faire et qu'effectivement, la lutte était forte entre les deux hommes.
Pierre-Yves, j'ai une question. Tu peux nous faire l'historique un peu, s'il te plaît, même si je le connais, mais pour le rappeler aux auditeurs certainement, de la nomination de Julien Stéphan. Il me semble qu'il est entraîneur de la réserve à l'époque.
Oui.
Que ça se passe pas très bien.
Il veut partir à Monaco.
Voilà. Hein, et avec Thierry Henry. Que ça se passe pas très bien en réserve en termes de résultats.
Oui,
à cette époque-là.
Oui, mais c'est un peu temporaire. C'est quelqu'un qui a vraiment la cote quand même au club et qu'on sent monter peu à peu. On sait que c'est un garçon qui a vraiment du talent.
Du coup, était-ce un choix vraiment d'Olivier Létang qui a décidé de lui donner sa chance ou alors c'était peut-être ça venait du dessus.
Ça venait du dessus et Olivier Létang dit il a 2-3 matchs pour faire ses preuves, sauf qu'il gagne à Lyon.
C'est ça.
Et que dans la foulée, on demande à ce que le contrat soit signé tout de suite.
Exactement.
Julien Stéphan, c'est l'homme d'Épinot. Et derrière, il va chercher ce premier trophée qui est attendu depuis 1971. C'est impossible que la famille Épinot se sépare de lui.
Bah, voilà. Du coup, donc, c'est extrêmement clair.
Exactement.
Voilà. On a tout s'explique. Tout s'explique. Évidemment, il y a une question d'une guerre d'ego, une guerre politique. Non, attends, Jonathan, on accueille Benjamin, supporter Rennais au 32-16. Bonsoir, Benjamin, et bienvenue dans l'After.
Salut, messieurs. Salut
Benjamin. Bonjour, est-ce que tu as été surpris, toi, quand tu as appris ça, aux alentours de 15h, 15h30 aujourd'hui?
Écoute, oui, forcément surpris du timing, mais c'était l'unique surprise. Comme disait Pierre-Yves, les gens qui suivent le club, il y avait des indices hein, quand même. On voyait la chose arriver, c'est juste qu'on ne s'y attendait pas maintenant.
Et est-ce que ça te fout un peu les boules quand même que tu vois que ton club est troisième de Ligue 1, qui depuis 2 ans est clairement en position, en tout cas en pleine ascension, avec des émotions dont on a parlé, dont vous étiez privé pendant de nombreuses années. Est-ce que tu as le sentiment que ça va impacter ton équipe?
Écoute, celui qui a les boules ne connaît rien au Stade Rennais.
Bonne réponse.
Le Stade Rennais, faut déjà, pareil, Pierre-Yves pourra en parler. Quand est nommé Olivier Létang, on vient de faire 4 victoires sous Gourcuff. Hein. Et du coup, on retourne tout à ce moment-là, on change toute l'équipe et président et entraîneur. Donc, si tu veux, l'Épinot, on sait qu'il tranche dans le vif. Quand une décision est prise, il ne s'accommode pas d'une forme, ils y vont. Donc voilà, non, pas surpris. Est-ce que ça peut maintenant avoir un impact sur le sportif? Forcément, ça va pas faire du bien. Maintenant, je pense que ça peut être très aléatoire. Concrètement, soit les jeunes de l'effectif soutiennent Stéphan, je pense que c'est le cas, et du coup poussent pour aller chercher un résultat en fin de saison. Soit, en effet, des cadres comme Nzonzi qui vient d'arriver, hein, par exemple. Nzonzi, il signe pour l'étang, hein, il coupe pas pour Stéphan. Soit il y a des cadres qui se laissent un peu aller. Mais ça peut aller super vite. Hein. Clairement, tu vois, le week-end prochain, Rennes peut reprendre des points d'avance sur Lyon. Le week-end prochain, il y a Lille-Marseille. Donc, si tu veux, au niveau classement, ça peut aller encore très vite. Mais... Il ne faut pas oublier que Rennes, leur objectif, c'est top 5. Hein. Ce n'est pas podium.
Ouais, bien sûr, tu as raison là-dessus, Benjamin. Et moi, là où ça me chagrine un petit peu, c'est que je trouve que c'est quand même très dangereux de trancher quand tu es... actionnaire d'un club et que t'as un conflit entre, allez, même si Pierre-Yves nous l'a bien dit, c'est pas le directeur sportif, mais on va dire que c'était le directeur sportif par acte, de trancher en faveur de ton entraîneur. Un entraîneur, tout va très vite dans le foot, on est bien placé pour le dire en tant qu'observateur, et un entraîneur, c'est quand même une monnaie d'échange assez courante, alors que le directeur sportif, surtout quand tu vois ce qu'a accompli Julien Stéphan depuis qu'il arrive au Stade Rennais, je trouve que c'est un petit peu dur à avaler.
Ok, les gars.
Après, quand tu vois ce qu'a, je reprends tes mots, quand tu vois ce qu'a accompli la famille Pinot dans le milieu des affaires, moi, je ne me permettrais pas de dire qu'ils ont pris la mauvaise décision. Ils estiment qu'aujourd'hui, l'entraîneur peut plus apporter sur le moyen terme que le président.
Mais Benjamin, je te coupe tout de suite. Sauf que le foot, c'est pas comme les affaires, c'est totalement irrationnel.
Et Benjamin, est-ce que moi, je te coupe encore une dernière... Peut-être quand t'es joueur, au bout d'un moment, allez, tu vas y penser une semaine ou deux. Mais je peux te dire que ça prend vite le cours et derrière, tu reprends vite le cours de ta saison et tu veux juste performer.
Merci, Benjamin. Ouais, voilà. Conclure en 5 secondes.
Juste rajouter un dernier truc très rapidement, qui peut prolonger le débat. c'est de se dire maintenant qui va être mis à la place.
Alors justement,
bien joué Benjamin.
Benjamin, tu vas écouter. Notre merci. Tu reviens quand tu veux dans l'after. C'est la question que j'allais poser à Pierre-Yves Leroux, parce que c'est vrai que des confrères, notamment d'autres médias comme l'équipe, annoncent Arsène Wenger peut-être comme piste prioritaire pour remplacer. Donc en tant que président, ce qu'il n'a jamais fait, président, pour remplacer donc Olivier Létang. Pierre-Yves, est-ce que on en parle à Rennes déjà? C'est un nom qui circule.
Tu me demandes si par-dessus les temps, soudain, j'ai vu passer...
Bravo,
Wenger. Eh bien, écoute, non, je ne sais pas du tout. Que ça soit un rêve de la famille Pinot, ça, effectivement, maintenant qu'il arrive dans trois jours, j'en suis pas certain. Néanmoins, ce que je disais il y a quelques instants, si il y a cette date qui peut paraître surprenante dans le timing, elle a peut-être ses explications dans la gestion du mercato, et qu'il est fini, et que désormais, il faut mettre en place une nouvelle équipe, et que du côté de la famille Pinot, on a déjà quelques idées en tête, forcément.
Certainement.
Voilà.
Et ça ne pouvait pas tenir deux mois de plus jusqu'à la fin.
Bon, bref, voilà les gars, il faut qu'on avance vraiment. Pierre-Yves, avant de te libérer, juste, puisque tu es à Angers, tu as assisté aux conférences de presse, aux interviews également. Tu as trouvé comment les Angevins, là? Un peu secoués, non seulement par la défaite, mais également par la lourde semaine qu'ils viennent de vivre.
Ils sont très très fatigués, ça a été les mots de Stéphane Moulin. Tout le monde est très fatigué par l'enchaînement des matchs, mais aussi par ce qui s'est passé évidemment cette semaine. Stéphane Moulin l'a reconnu, il faut passer à autre chose. Ils vont avoir deux jours et demi de pause, ce qui arrive rarement, et en plus après une défaite. Mais Stéphane Moulin estime qu'ils ont vraiment tous besoin de ça. Ils n'y sont plus depuis quelques semaines déjà au niveau sportif, et là ça s'est pas arrangé évidemment sur ces dernières heures.
Merci Pierre-Yves, on te laisse partir cette magnifique musique.
Bonne soirée. Messieurs. Salut, Michel. Eh oui, Michel.
Ça Delpech.
Bah oui.
Évidemment.
Ça sera une soirée à la Bodega, ça. Hein, ouais.
Michel Delpech. Il connaît pas Jonathan Michel Delpech.
Nous, on est là avec Paulo Breitner et Jonathan McCarty et Damien Perrinel. Paulo est là pour nous parler de la Bundesliga, d'un choc demain en Bundesliga et du Borussia Dortmund, bien sûr. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot. Nicolas Jamain.
Avec Jonathan McCarty, avec Damien Perrinel. On est dans la dernière ligne droite, dans le premier virage, la dernière ligne droite de l'after, ça veut rien dire, hein. C'est un entraîneur de Ligue 1 qui avait dit ça. Et on est avec Paulo Breitner. Bonsoir Paulo.
Bonsoir Nico, bonsoir tout le monde.
Bonsoir Paulo.
Salut Paulo.
Paulo qui est là tous les soirs quasiment dans l'after, puisque.
Mission Dortmund.
Ouais, non mais on dit plus à nous.
Ouais, passez
vraiment. On dit Off Gabe Dortmund.
Dans 10 jours, Borussia PSG, match 8e de finale aller de Ligue des Champions. D'ailleurs, on vous fait gagner 2 places. Appelez-nous, envoyez foot au 7-32-16 pour gagner 2 places pour le match au Signal Iduna Park. À Dortmund, bien sûr.
Tu dois avoir un maillot de Dortmund qui traîne.
Moi, j'adorais le Dortmund de l'époque. Ouais. Le jeune fluo, le Matthias Sammer et compagnie.
Christian Wurns.
Wurns. Polo.
Oui.
Tiens, question rapidement, c'est qui le champion SA dans ton pays? Qui c'est le plus payé?
J'ai pas entendu, excuse-moi.
Le mieux payé dans ton pays, là, les joueurs. Là.
Oh, bah, c'est forcément
c'est Robert.
Du Bayern Munich. Ça va être Robert Lewandowski.
C'est Robert Lewandowski avec Coutinho. 1 600 000 euros par mois.
Pas mal.
Coutinho s'en tire bien aussi, quoi. C'est pas mal.
Voilà, il va peut-être pas toucher ça longtemps en Bavière.
T'as pas tort. Polo, demain, un match à enjeu, un match de haut de tableau. Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund. C'est non seulement un premier gros test pour le Borussia, mais également un match à enjeu pour le Borussia.
Bah, c'est un peu le problème du Borussia Dortmund et son élimination en Coupe d'Allemagne ce mardi. D'ailleurs, juste petite parenthèse, les matchs de mardi et mercredi ont été une véritable ode à la Coupe d'Allemagne, tellement c'était assez extraordinaire. Le problème, c'est que le Borussia Dortmund, évidemment, est rentré à nouveau dans un tunnel de turbulence par cette élimination, première mi-temps catastrophique. Et comme tu le dis, c'est le vrai test que je vous avais annoncé un petit peu au niveau du calendrier. Le vrai problème, c'est que le Borussia Dortmund à l'extérieur n'est pas du tout le même que celui à domicile. Hein. Rappelons que le Borussia Dortmund est invaincu cette saison, toute compétition confondue à domicile, ce qui n'est pas du tout le cas à l'extérieur où ils ont des parcours extrêmement moyens. Et surtout, ils ont donc éliminé en Coupe d'Allemagne, mais en plus, le problème, c'est que s'ils perdent demain à Leverkusen, il va y avoir à nouveau le spectre d'une non-qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Et à l'inverse, le Bayer Leverkusen de Peter Bosch, qui pareil est sur courant alternatif, eh bien, s'ils perdent demain à domicile, peuvent dire au revoir quasiment à une prochaine qualification à la Ligue des Champions. Donc c'est un match très très important avec beaucoup d'enjeux et avec un autre problème du côté du Borussia Dortmund évidemment, c'est la blessure de Marco Reus qui est catastrophique.
Alors comment ils vont faire, tu penses, toi, si on se projette là sans Marco Reus?
Écoute, moi ça fait un mois que je vous annonce qu'on va passer dans une défense à 4, je l'attends toujours et je pense que je l'attendrai toujours. Donc le vrai problème, c'est que Marco Reus, c'est pas, tu peux pas le remplacer, c'est un joueur particulier, hein, un véritable 9,5, mais qui peut jouer aussi milieu de terrain, enfin meneur de jeu, qui se projette très rapidement. Et donc ils vont jouer, je pense, en 3-4-3. Hazard, qui était un petit peu mis de côté en ce moment, va logiquement retrouver une place de titulaire. Mais quid de Emre Can? Est-ce que tu le fais jouer au milieu de terrain ou est-ce que tu le fais jouer en défense centrale? Et puis il y a l'hypothèse de plus en plus, ils ont lancé depuis quelques semaines, Lucien Favre a lancé un petit jeune du centre de formation qui s'appelle Reina, qui est excellent, qui a marqué un but extraordinaire, j'espère que vous l'avez vu, contre le Werder pour le revenir à 3-2.
Oui, mais bon,
et
voilà,
il a 17 ans, le problème c'est qu'il... Il a 17 ans, donc tu peux pas imaginer ce joueur-là titulaire contre le PSG, c'est catastrophique. Par contre, on en parle de plus en plus. Donc le problème, encore une fois, c'est que si tu gardes ton Brandt et Witzel au milieu de terrain, Emre Can forcément, c'est défense centrale à la place sûrement d'Akanji, voire de Zagadou, et puis tu mets Hazard devant, mais bon, c'est... Et puis bon, Guerrero est douteux encore, même si c'est entraîné un petit peu avec l'équipe, il est douteux, c'est possible que ce soit Schultz, mais c'est un peu la configuration que l'on risque d'avoir, y compris contre le PSG. Le problème, encore une fois, Marco Reus est indispensable et c'est un profil qu'on n'a pas.
Ça change clairement le rapport de force là, à 10 jours du Borussia PSG, Damien.
Ouais, c'est évident. Après, Marco Reus, tu me dis, hein, si je me trompe, Polo, avant cette trêve internationale, avant la trêve et depuis le début, il avait quand même, il était un peu dans le dur. Il ratait beaucoup d'occasions, pas très efficace devant le but. Et est-ce qu'il ne peut pas être remplacé poste pour poste quand Haaland n'était pas là? Bah, qui n'avait pas encore signé à Dortmund, justement, peut-être faire un remplacement poste pour poste, Reus, Haaland, même si les profils sont complètement différents, hein, bien entendu.
Alors le problème c'est vrai, c'est que Marco Reus a parfois joué en position de faux neuf, quoi.
Dans le 3-4-3, bon, surtout.
Ça n'a jamais été extraordinaire non plus. Mario Götze, l'hypothèse, Mario Götze. Moi, on n'en parle plus de Mario Götze, mais c'est tout. Il est toujours là en attendant. Et mais c'est tout. C'est vraiment compliqué parce que Haaland sera titulaire, c'est logique. Sancho, évidemment. Mais je voudrais juste vous donner une petite anecdote, si vous voulez, qui me semble très parlant de ce qui se passe au Borussia Dortmund. Là, il y a quelques semaines, lors de la 19e journée, vous savez, il y a le match contre Cologne. Et Haaland, pour la deuxième fois à la suite, n'est pas titulaire puisqu'il a encore, et d'ailleurs on n'en parle pas assez, mais aujourd'hui il a encore des petites lésions musculaires, des petits soucis, et donc il est encore protégé par Lucien Favre. Et moi, en ce moment, à le début du match, alors que je vois la compo, j'ai des contacts avec mes copains en Suisse qui sont très proches de Lucien Favre, et ils avaient tous la trouille parce que Haaland n'était pas titularisé. Et donc si Dortmund ne gagnait pas contre Cologne, tu sens que tout le monde allait tomber sur Lucien Favre parce qu'il ne titularisait pas Haaland, et on est un peu dans une phobie aujourd'hui autour de Lucien Favre qui n'a rien à voir avec le Borussia Dortmund et qui est un petit peu, bah voilà, on est rentré à nouveau dans une zone de turbulence avec cette élimination en Coupe d'Allemagne, avec la perte de Marco Reus. Et si demain il y a une catastrophe à Leverkusen, je ne veux pas dire une défaite, mais en quoi s'ils se font exploser par exemple, ce qui est possible, n'oublions pas que Leverkusen l'a remporté par exemple au Bayern Munich lors des matchs années, c'est pas un match facile demain. Et s'ils se font exploser, parce que le vrai problème contre le Werder, c'est pas qu'ils perdent, parce qu'en plus le meilleur joueur du match, ça a été le gardien de Brême, mais c'est même pas qu'ils se prennent 3 buts, c'est la facilité avec laquelle ils se prennent des buts. Mais ça, c'est encore pire. Sûr. Donc voilà, donc c'est un peu compliqué en ce moment.
Mais après, Polo, c'est un peu paradoxal justement de sentir un peu ce délit de sa gueule qu'il y a contre Favre. Parce qu'attends, il gagne demain. T'as quand même le Bayern et Leipzig qui s'affrontent.
Le dimanche,
et ils peuvent même être deuxième de la Bundesliga.
Exactement. C'est la version, le verre à moitié vin, c'est la vision positive. Moi, je peux te donner la vision négative. C'est, ils se vont éclater demain et le week-end prochain, enfin le vendredi prochain, ils rencontrent Francfort qui n'a rien à perdre et qui éclate tout le monde comme ce soir. Ils ont éclaté 5-0 à Augsbourg. Oui. Et puis tu te dis, ben ils débarquent contre le PSG. Et tu te dis, ben qu'est-ce qui va se passer?
Polo, voilà. Non, il faut qu'on avance. Non. Tiens, Polo, est-ce que tu aimes ce genre de musique? Écoute.
kan dere slutte å prate så mye, da blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise, jeg synes det mye viktigere.
Voilà, c'est un peu gênant, c'est la première casserole qu'on a trouvée, celle de Hollande, l'attaquant du Borussia Dortmund. Ouais. C'est un rap.
Moi, je suis plus Rammstein.
Kadi, oui, moi aussi. Ou Nina Hagen aussi, tu vois.
Exactement, la chanteuse de l'Union de Berlin quand même.
Bien sûr, tu vois. Voilà. On connaissait classique, voilà. Un rap quand il avait 16 ans, donc c'est pas vieux, hein, il y a 3 ans seulement. Voilà, il s'est lancé dans un club de rap, Hollande. Voilà.
Ouais, il a bien choisi sa carrière avec le Bayern.
C'est un peu une catastrophe, mais c'est alors, un gamin, c'est un adolescent.
Non. C'est une catastrophe, mais je pense que c'est volontairement tragicomique. Mais si, c'est un truc, c'est censé être drôle.
C'est sympa, c'est un gamin.
Tu vois là dans le toboggan.
Merci Polo, à demain soir.
Merci à vous les gars.
Ciao, demain soir, bien sûr. Tiens, Quentin, notre auditeur au 32-16 pour le jeu Mission Dortmund. Je rappelle que Quentin, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Qu'il faut que tu trouves la place gagnante dans la tribune pour gagner deux places pour le match Dortmund-PSG. Alors je t'écoute.
Ouais, alors moi j'ai choisi la place G2.
G2, attends, je regarde. C'est perdu, Quentin.
Ah, bon, dommage.
Désolé, Quentin, c'est perdu. Désolé. Bah écoute, c'est triste,
cas,
mais bon.
Merci pour tout.
Pas tous gagnés, malheureusement.
Mais tu peux rejouer.
Je vais réessayer la semaine prochaine, Quentin.
Le okay, jeu bon, se
poursuit la semaine prochaine. Excellente soirée à toi.
Ciao, Quentin.
Merci. Salut, Quentin. Merci, Jonathan. Merci, Damien.
Et Nico, merci, Damien.
Bonjour. À demain pour l'after, bien sûr, à partir de 22h après la soirée de Ligue 1. Bye bye.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot.